parti.
Bonjour et bienvenue à tous si vous nous rejoignez, c'est Thomas au micro pour l'émission Portrait de la Rage. Aujourd'hui je reçois Pierre Audin, habitant de Mont. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors je disais que je recevais Pierre Audin, mais en fait c'est vous qui nous recevez, merci de nous recevoir chez vous.
Oui, c'est exactement ça.
Alors Pierre, vous êtes un historien, donc spécialisé dans la Touraine et notamment le Val de l'Indre. Vous avez 70 ans, vous êtes né à Tours. Et vous êtes secrétaire général de la Société d'études de la rivière Indre et de ses affluents, dont vous avez été cofondateur en 1987, mais aussi membre de la Société archéologique de Touraine depuis 1970 et de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine depuis 1998. Vous êtes également écrivain et vous avez participé à l'écriture de nombreux livres sur le patrimoine de la Touraine et bien d'autres endroits. Votre parcours scolaire, vous avez fait votre mémoire de maîtrise en archéologie gallo-romaine. Vous avez été diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez fait des stages à l'École française de Madrid en 1975 et à la Villa Giulia de Rome en 1976. Et vous avez fait votre thèse de troisième cycle sur les survivances du paganisme dans le christianisme.
Vous savez tout.
Je sais tout, j'ai tout trouvé.
Je me l'ai tout ça.
Non, voilà, et vous avez été chargé de cours à l'université de Tours de 1980 à 1985. Tout ça, c'est bon?
Oui, pour l'instant, ça va.
Bon, alors déjà, bravo, quel parcours. Ça fait, c'est impressionnant quand même.
Non, pas spécialement.
Non,
c'est quand vous verrez, quand vous aurez mon âge. Hein.
Ouais.
C'est toute une vie. Ça. Non, mais c'est j'ai fait des choses intéressantes souvent. Quoi. Je n'ai pas fait que ça, mais l'archéologie m'a passionné très tôt. J'étais encore instituteur. J'ai débuté comme instituteur après avoir fait l'école normale à Fondettes. Et à ce moment-là, j'ai créé un club d'archéologie aux rives du Cher, je crois bien. Et donc, on avait rassemblé là un petit groupe d'amateurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Au bout de 2 ou 3 ans, en demandant des autorisations de sondage et de prospection dans les champs, on m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas assez qualifié. J'ai dit, bon, ben, puisque c'est ça, je vais m'inscrire à la fac de Tours. Et puis, j'ai fait les études. Et puis après, d'année en année, on continue. Et c'est là qu'on se découvre une passion. Et puis après, on ne s'arrête plus. On s'aperçoit qu'on peut aller très très loin parce qu'après on peut faire plusieurs thèses et on n'en sort pas, mais c'est l'archéologie qui m'a emmené, qui m'a poussé à faire des études plus longues que ce que j'avais prévu au départ.
Très bien. Alors on sent bien que vous êtes un passionné d'histoire et vous êtes donc spécialisé dans la période gallo-romaine. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette période?
Ben justement, c'est d'abord les vestiges archéologiques qu'on peut trouver en France, même s'ils sont assez rares, de moi à l'époque, ben, il y avait moins de travaux, de grands travaux. Et maintenant, d'ailleurs, les gens comme moi ne peuvent plus faire d'archéologie. Les profs d'université ne font plus d'archéologie. Ce sont des professionnels de l'INRAP, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait des études spécialisées, qui sont chargés de courir après tous les chantiers archéologiques. Nous, à l'époque, on faisait ça plus calmement. On faisait des synthèses, on intégrait ça dans l'histoire d'une région. Ça n'est plus tout à fait le cas. Mais donc, c'est l'archéologie. Puis après, évidemment, pour être qualifié, il faut connaître l'histoire des objets qu'on a trouvés, c'est-à-dire l'histoire de la Gaule romaine, et puis après de toute l'Italie, c'est-à-dire de Rome. Donc, ça s'étend, et petit à petit, on est obligé de faire des études plus longues, plus approfondies, pour connaître l'origine des objets qu'on peut trouver en fouille.
D'accord. Alors on comprend bien que ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet. Je voudrais savoir comment est-ce que vous procédez concrètement pour vos recherches, pour l'écriture de vos livres. Comment se déroule votre journée de travail type?
Eh bien, depuis que j'ai pris ma retraite, ça commence le matin et ça se termine le soir. C'est-à-dire que je travaille autant, sinon plus, que quand j'étais en activité. C'est-à-dire que maintenant, je ne quitte plus l'ordinateur. Bon, avant, j'avais un ordinateur plus rudimentaire, un Amstrad. Et avant, c'était la machine à écrire électrique et avec un petit écran. Et avant, c'était la machine à écrire traditionnelle. Donc, et j'avais des fiches. Je faisais des fiches. Des fiches de bibliographie. C'est-à-dire que je suis un rat de bibliothèque. Mais j'ai toujours en tête une série de sujets qui m'intéressent. 5, 6, 10 sujets qui m'intéressent. Donc, quand je dépouille un livre pour faire un article, je note aussi tout ce qui est susceptible de m'intéresser dans l'avenir sur d'autres sujets et je les mets en réserve dans des petites fiches autrefois et maintenant dans l'ordinateur. Si bien que quand j'ai fini un article ou un livre, j'ai plein de renseignements sur d'autres livres possibles. Quand je commence un deuxième livre ou un deuxième article, une deuxième étude pour une revue, c'est pareil. Je Je lis tous les livres qu'il me faut, toutes les revues qu'il me faut, et je note encore tout ce qui peut me servir pour l'avenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'évite de revenir sur les mêmes livres, oui. de dépouiller 400 pages pour l'année d'après m'apercevoir qu'il faut que je redépouille pour un autre sujet. Donc j'accumule les renseignements, et donc j'avais 10, 15 000 fiches, et après j'ai tout sous la main. C'est-à-dire que quand on connaît bien les sujets, j'ai une idée en tête, je regarde si ça n'a pas été fait déjà, et après je me lance avec tous les renseignements que j'ai accumulés. Les renseignements, ce sont des renseignements de bibliographie. Donc, je sais dans quel livre chercher, dans quelle revue chercher. Et donc, ça gagne beaucoup de temps.
D'accord.
Donc je vais relativement peu travailler aux archives parce que la période gallo-romaine, il n'y a rien aux archives. Et après, c'est plutôt le Moyen-Âge qui m'intéresse. Alors, à ce moment-là, quand j'ai travaillé sur le Moyen-Âge, là, oui, j'ai eu recours en partie au travail aux archives, en plus de tout ce qui est dans les livres et dans les revues.
Très bien.
Donc, ça fait un système un peu de boule de neige. On accumule les connaissances oui. et après, ça devient de plus en plus facile.
Ok. Et d'où vous est venue donc, cette passion pour la Touraine et plus précisément pour le Val de l'Indre ?
Ben, d'abord, je suis né en Touraine. J'ai beaucoup vécu en Touraine. Mes parents, mes grands-parents étaient tourangeaux aussi. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, en plus, c'est une région qui est quand même assez riche en histoire. Du fait que c'était une zone de carrefour, c'était une petite région par rapport à d'autres. Mais ils sont passés beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'événements. Et puis aussi, après, plus tard, il y a eu l'université de Tours. Et là, il y a eu beaucoup de mémoires de maîtrise qui ont été faits sur des sujets très pointus que je réutilise, moi, dans mes livres ou dans mes articles. Il y a beaucoup de documentation, donc. Et donc là, après le Val de l'Indre, vous me disiez, eh bien, à ce moment-là, quand j'étais chargé de cours à l'université, j'ai entendu parler d'une possibilité d'habiter dans la vallée de l'Indre, un moulin en particulier qui était en ruine.
On rappelle que vous habitez à Mont.
Voilà, dans un moulin. Et l'université m'a dit qu'elle était propriétaire à ce moment-là d'un domaine. Elle m'a dit, écoutez, on va vous aider, mais à condition que vous nous aidiez à créer une association qui serait basée dans le domaine du Breuil, au bord de l'Indre, à Mont. Parce qu'on vient de l'avoir, c'est une donation, mais la condition, c'est qu'on y crée une association, une société savante qui étudierait le patrimoine de la vallée de l'Indre.
Donc vous parlez de la CERIA.
La CERIA, alors donc avec un collègue qui a été vice-président de l'université, M. Chulet, nous avons fondé cette société d'études de la vallée de l'Indre pour faire connaître le patrimoine de la vallée de l'Indre, aussi bien dans des revues que dans des sorties, dans des études de toutes sortes. Donc ça a bien fonctionné. Au départ, aidé par l'université pendant 2 ou 3 années. Puis après, on a pu voler de nos propres ailes, c'est-à-dire sans subvention.
Très bien. Eh bien, Pierre, on va faire une petite pause musicale et on reviendra à parler encore de vous. Thank you. Et bonjour à vous, si vous nous rejoignez, nous sommes de retour sur La Rage, toujours pour l'émission Portrait, après cette petite pause musicale, et nous sommes toujours en présence de Pierre Audin, historien du Val de l'Indre. Ça va toujours, Pierre ?
Ça va très bien, merci pour l'instant.
Alors, j'avais une question, c'est quel est votre plus beau souvenir en ce qui concerne votre métier, l'architecture ou les pays que vous avez visités ?
Oui, ben peut-être deux souvenirs liés à l'archéologie. Vous avez peut-être parlé tout à l'heure que j'avais fait une période à Rome. En fait, on était basé à Rome, mais on faisait de l'archéologie étrusque sur les nécropoles étrusques de Tarquinia et Cerveteri, pas loin de Rome. Et là, on avait, avec le professeur qui nous avait emmené là-bas, une sorte de périscope, et on regardait les tombes étrusques. On faisait un petit trou au sommet de ces sortes de huttes recouvertes de terre. On vérifiait s'il n'y avait pas eu des fouilles clandestines à l'intérieur pour faire un inventaire des tombes qui étaient encore en bon état. Et quand on les trouvait en l'état, c'était magnifique, parce que dans ces tombes étrusques, il y a des personnages qui sont représentés en terre cuite, les morts allongés sur leur lit ou en train de banqueter, et puis tout l'intérieur de la maison reconstitué. En fait, ce sont des maisons comme elles étaient à la surface du temps des Étrusques, sauf que c'était des tombes à semi-enterrées.
La période étrusque, rappelez-nous, c'est quelle époque ?
Et c'est avant la conquête leur conquête par les Romains, c'est-à-dire avant le 2e, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et un autre souvenir, c'est l'avion que m'a été payé par l'université de Tours pour faire de la prospection aérienne. C'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pu partir aussi en faire en Italie avec cet avion. C'était un motoplaneur, donc un grand planeur de 2,20 m, 2,30 m d'envergure, avec le moteur à l'extérieur au-dessus. Donc il y avait très très peu de carburant. On le lançait à la main, et plus tard, j'ai pu acheter un grand treuil qui le lançait. Donc il volait, il montait. Quand il était assez haut en altitude, à une centaine de mètres, il n'y avait plus de carburant. À ce moment-là, il planait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de projection de carburant sur l'appareil photo qui était en dessous, et il n'y avait plus de vibration non plus. Il planait donc silencieusement. Et quand on faisait des cercles autour d'un champ qui pouvait recéler un site archéologique ou autour d'un site qui était déjà connu, et plusieurs ronds au-dessus, plusieurs cercles autour, plusieurs boucles, et je déclenchais l'appareil photo par ma radiocommande, et après je le faisais descendre, et il se posait sur un patin, il glissait sur le sol, et on enlevait les ailes, on pliait l'avion, on mettait dans la voiture, on allait sur un autre site. Et ça, j'ai de très bons souvenirs de cette période-là, malgré la casse des avions de temps en temps à l'atterrissage, quoi. Ou alors quand on le perdait de vue,
oui.
Parce que quand il s'échappait un peu loin, on ne savait plus s'il s'éloignait ou s'il se rapprochait, alors là, il fallait faire un paquet tout double, lui faire un demi-tour pour le rapprocher, ou alors le perdre de vue définitivement et le retrouver dans un arbre à 2 km.
Ouais.
Mais ouais, ça, en fait, ce sont des bons souvenirs.
Donc c'était l'ancêtre du drone, en fait.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais après, il y a eu d'autres systèmes améliorés. Mais maintenant, évidemment, je rêve. C'est trop tard pour moi, mais si on a vu ces mini-drones là avec un appareil photo, là, on aurait pu prendre des photos formidables. Ça va venir avec maintenant des systèmes infrarouges, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des sites qui n'ont pas été fouillés sont dans les bois ou dans les prairies. Et là, maintenant, on peut voir. J'ai pris aussi d'ailleurs des photos infrarouges intéressantes, mais maintenant ça ne fait plus du tout tout ça. Mais on va sûrement découvrir des sites grâce aux drones, c'est sûr.
Alors Pierre, on a parlé de vous, on a dit que vous avez écrit beaucoup de livres. Où en êtes-vous actuellement de vos publications ? Combien de livres vraiment avez-vous publié ?
Bien, j'ai publié 25 livres, les 26e et 27e sont tout prêts à sortir. Et même 28e, je ne pensais plus à celui sur Villandry. Et puis j'ai écrit dans des revues, alors d'histoire et d'archéologie, 230 articles, études, qui sont beaucoup plus courtes, évidemment, que ces études que des livres. Ça peut faire que 10, 8, 10 pages, 15 pages. Mais en fait, ça demande autant de travail, parce que les sujets sont beaucoup plus pointus qu'un livre de synthèse. Et je passe sous silence les articles que j'ai pu écrire dans les bulletins municipaux d'Artane ou de Mont, qui sont une demi-page ou une page. Ça ne demande pas beaucoup de travail, sauf qu'un jour ou l'autre, vous êtes à court d'idées. C'est le cas pour les bulletins d'Artane ou celui de Mont, je n'ai plus de sujets. Donc, ce que j'ai déjà dit dans d'autres livres.
Après toutes ces années alors, de travaux, est-ce que vous avez encore des projets ?
Ah, des projets, j'en ai plein la tête. Je fais des livres, je fais des articles pour des revues. Alors, avec la Série A, il n'y a pas de problème. Tous les ans, j'écris 3 ou 4 revues. Je fais des articles à la Société archéologique ou dans d'autres associations. Mais pour les livres, c'est plus compliqué. Parce que je fais les livres assez rapidement, mais je ne trouve pas d'éditeur. C'est-à-dire que les éditeurs, ils sont toujours très réticents. Est-ce que ce livre va se vendre à suffisamment d'exemplaires? Alors, quand je ne trouve pas d'éditeur, je suis obligé de participer financièrement ou totalement à l'édition du livre, ou alors je le garde sous le coude pour des jours meilleurs et j'en extrais des chapitres pour faire des communications. Malheureusement, j'ai plusieurs livres, 4 ou 5 livres qui sont dans mes tiroirs ou qui sont en cours, dont un sur la guerre de 100 ans en Touraine, et peut-être que je ne trouverai pas à l'éditer.
Alors que lit Pierre, en fait, le soir, avant de se coucher?
C'est pas forcément avant de me coucher, je peux lire n'importe quand. D'ailleurs, je lis, et même quand je travaille sur l'ordinateur pour un livre, il faut lire. Hein, c'est des documents que je lis, des livres d'histoire, des revues d'histoire qui me fournissent des renseignements que j'ai empruntés à la Société archéologique ou à la bibliothèque universitaire. Donc toute la journée, j'ai un livre sous les yeux. Mais pour me reposer, c'est ça que vous voulez dire, je lis des romans historiques, mais aussi bien des romans policiers que des romans tout court. Mais j'aime bien les romans historiques qui ne sont pas complètement imaginés, qui sont à base d'un fond authentique.
D'accord.
Alors là, oui, parce que je sais que c'est écrit par des historiens en général ou des gens qui sont bien documentés.
Et votre livre de chevet en ce moment?
Ça peut être des livres sur la préhistoire ou des livres sur l'Égypte. Je lis en ce moment des livres sur l'Égypte.
Du Christian Jacques.
Ou Pauline Jade, ou des gens comme ça qui ont écrit des livres bien documentés, oui.
D'accord.
J'aime bien Christian Jacques, effectivement. Mais pas uniquement. J'aime bien les livres sur le Moyen-Âge aussi, et beaucoup, ça, jusqu'au Moyen-Âge. Genre après, tout ce qui se passe après, ça m'intéresse beaucoup moins, y compris pour les publications. C'est l'Antiquité ou le Moyen-Âge.
Eh bien, merci en tout cas à Pierre Audin pour nous avoir parlé de lui, de
un
son
trop,
métier, de
trop,
ses passions. Si cette émission vous a plu, en tout cas, je vous invite à retrouver Pierre dans les émissions animées par Rémi Baudin sur le patrimoine du Val de l'Indre. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait. Bye bye.
Bonjour. Écoutez.